On les attendait en Espagne ou encore sous le soleil marocain, traditionnel lieu d'hivernage pour ces grands migrateurs. Mais cette année, c'est en France que des grues cendrées ont pris leur quartier d'hiver, un changement de comportement directement induit par le réchauffement climatique.
CO2, mon amour.
Autrefois simple lieu de passage, la France est donc devenue une terre d'accueil. De toutes les grues cendrées qui cette année ont quitté le nord de l'Europe, Suède et Finlande, 60 000 ont choisi d'hiverner en Aquitaine et Champagne, sans aller jusqu'au Maroc. Plus remarquable encore, certaines cigognes blanches sont aujourd'hui sédentarisées. En une quinzaine d'années seulement, le bouleversement climatique a donc modifié des comportements millénaires.
Denis Chessot, sur France Inter.
Bah oui, bien sûr, et puis peut-être bientôt des hippopotames et des girafes dans les Ardennes. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Nicolas Slimani nous accompagne à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Henri-Marc Mutel qui la réalise avec Alice Michaud, notre stagiaire. Bon, on va quand même se lancer avec cette voix de canard. Waouh ! Durant 3 semaines complètes, Radio France s'engage pour la planète. En quoi le changement climatique est-il en train de jouer aux quilles avec nos vies ? Alors bon, Radio France, c'est vrai qu'on balaye un peu quand même devant nos gabegies ordinaires, hein, c'est-à-dire éteindre les lumières des bureaux, celles des studios quand on les quitte, ne plus donner de l'eau en bouteille à nos invités qui sert à engraisser cristalline et les décharges, avoir un vrai garage à vélo sécurisé. Et puis tenez, ne pas avoir de pub pendant 3 semaines pour les voitures d'une tonne 5, les SUV géniaux censés combler notre virilité. Alors non, juste des pubs pour les banques. Comment ? Ah oui, d'accord. La BNP très climaticide, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel, Banque Postale qui se sont fait tacler par Oxfam car elles ont consacré entre 2016 et 2017 plus de 42 milliards de financements aux énergies fossiles contre près de 12 aux énergies renouvelables en réduisant leurs investissements. Effet de serre, est-ce que j'ai une gueule d'effet de serre ? Oh, tu comprends, moi je veux changer d'air. Tu commences à me chauffer, mon effet de serre, c'est toi. Alors vas-y, barre-toi à nos gens au bord de l'eau, tant qu'il y en a encore, profites-en. Ah là là, au-dessus des nuages, qui sont les premiers gaz à effet de serre, on regardait les humains consommer, les humains Black Friday, les humains seuls dans leur petite ou grosse moto, accélérer toujours en collant des rustines sur ce qu'ils ne veulent pas voir. Bon, alors après tout, le PSG a gagné contre Liverpool, donc pourquoi s'affoler ? Le problème, c'est que là-haut, les anges commencent à rôtir. Eh oui, alors c'est très bon un ange rôti, mais Dieu est vegan et ne mange pas les anges, donc inutile de les faire rôtir. Mais où est le bouton pour éviter que les anges et les âmes réduisent à la cuisson ? Bah, nous on peut rien faire, hein. C'est vraiment en dessous que ça se passe. Là où les hommes ont finalement décidé de rôtir en enfer, dans cet immense lupanar, cette boîte de jour, cette boîte de nuit, surchauffée sur le rythme d'une salsa du démon. Alors depuis tant d'années que les scientifiques du GIEC arpentent les trottoirs pour nous annoncer cette nouba dantesque, allô, 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 la Terre, est-ce que vous nous recevez ? Nous sommes les anges. Le vaisseau Terre ne répond plus, en tout cas pas beaucoup. L'entreprise est aux mains des robots de la croissance à la dérive, quelque part entre la mer de l'indifférence, les abysses du profit immédiat et les astéroïdes de l'irresponsabilité. Alors vous savez, le fameux décompte 3, 2, 1, 0 qui a bercé nos années lunaires transgresse les habitudes en montant inexorablement. COP 21, 22, 23, 24. Jusqu'à quel chiffre faudra-t-il donc grimper ? Pour permettre d'avoir, de se poser comme une fleur sans trop de cas sur une planète encore vivante. Est-ce que l'on doit assister à ce décompte impuissant ? Je ne le crois pas. Et les humains, dit l'ange, retrouvez votre conscience, regroupez-vous, défoncez la porte verrouillée de la salle de commande et reprenez le contrôle manuel de ce climat foldingo qui vous conduit vers l'inconnu. Comment arrêter avec ses seules mains le cours d'un fleuve ? Eh ben, avec son cerveau, plus celui d'un autre, plus les bras d'un troisième, l'imagination d'un quatrième et les rêves fous des plus jeunes qui auront à payer la note de nos frénésies. Jean Jaurès disait, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. « Bon, ce sera pas le premier prédiction aujourd'hui, on est bien d'accord, mais enfin bon, on fera comme on peut. Bonjour à vous, Pascal Canfin.
Bonjour.
Alors, directeur général du WWF, dans ce studio aussi, Valérie Masson-Delmotte, climatologue. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et puis, Vanessa Lobin, qui est la déléguée générale de Climate Change. Ah, avant de faire un petit détour du côté des loups, Pascal Canfin, on va évidemment parler de la COP, etc., comme on l'a fait déjà depuis une semaine sur France Inter et Radio France. Mais vous arrivez aussi avec une application, moi, que je trouve assez géniale, qui s'appelle VAG. Alors, oui, déjà.
Faut même dire WAG.
WAG, on va dire, WAG, oui. Mais c'est à cause de la voix, donc je vais dire WAG tout de suite. We act for good, nous agissons pour le bien. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Parce qu'on va essayer de faire un petit test, là.
C'est une application qu'on a lancée il y a 15 jours au WWF et qui a vocation précisément à sortir chacun d'entre nous du fait qu'on se dit, nous on fait des petits gestes, on fait parfois sur l'alimentation, sur les déplacements, sur l'énergie, on fait ce qu'il faut faire, mais on a l'impression d'être chacun dans son coin et tout seul. Et quand j'avais vu le film Demain, il y a 2 ans, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, je m'étais dit, mais au fond, quand on a vu ce film, et je pense que beaucoup d'auditeurs l'ont vu, on a envie de rejoindre une communauté où on agit tous ensemble. Et elle est où, cette communauté? Elle n'existait pas. Et c'est pour ça qu'on l'a créée avec cette application. Et en 15 jours, on a déjà plus de 130 000 téléchargements. Donc 130 000 Français qui ont téléchargé l'appli et qui se sont engagés sur des actions concrètes. Et on a déjà plus de 420 000 actions concrètes qui ont été agrégées en 15 jours. Et
donc, alors, moi,
je voudrais lancer un défi aujourd'hui, si tu le permets, Denis, à l'ensemble des auditeurs de CO2 Mon Amour, puisque je crois que ça marche très bien, l'émission, il y a plus de 500 000 auditeurs. Vous écoutez chacun chez vous, face à votre poste ou avec votre téléphone, cette émission. Imaginez la puissance qu'aurait le fait que tous ces auditeurs téléchargent l'application WAG et qu'on soit dans quelques minutes, dans une heure, 500 000 à former une communauté. Pas 500 000 individus séparés, mais 500 000 ensemble à reprendre le pouvoir sur notre consommation, à agir ensemble pour nous et pour la planète. C'est le signal qu'on veut donner avec cette application, parce que moi je vise 1 million de Français, 1 million de téléchargements, parce que évidemment rien ne remplace les politiques publiques, on va parler de la COP24 et des choix des États, mais il faut surtout pas opposer les actions individuelles et les actions des États, parce que plus on sera nombreux à agir dans la bonne direction, plus on réussira collectivement à faire pression sur les entreprises, sur les États, pour aller dans le bon sens.
Et alors, lorsque j'utilise cette application WAG, donc il y a aussi une carte qui va me permettre de trouver des points d'alimentation, de trouver des points pour composter mes déchets, pour aller trouver des vélos électriques.
Et donc, dans cette application, il y a concrètement 500 défis, 500 actions concrètes sur l'alimentation, sur les déchets, sur l'énergie, à partir d'aujourd'hui même, pour préparer un Noël responsable, que ce soit sur les décorations, oui, sur les cadeaux, sur le futur repas. Et puis, vous l'évoquiez à l'instant...
Noël et développement durable, c'est un peu un oxymore.
C'est une des périodes où on gaspille le plus, une des périodes où on mange le plus de viande, et une des périodes où on a le plus de déchets. Et en plus, comme on a des pics de consommation d'énergie, on a une énergie très carbonée, essentiellement au charbon. Donc, Noël, pour l'environnement et pour notre empreinte, c'est pas terrible. En revanche, Noël, c'est sympa, c'est du lien social, ça fait plaisir. Et donc, on doit pouvoir, et c'est tout le sujet, on doit pouvoir évidemment réconcilier le bonheur d'être ensemble et le bonheur de vivre sur une planète soutenable. Et donc, je finis juste. Il y a donc 500 défis, et vous l'évoquiez il y a 30 secondes. Il y a déjà 33 000 bonnes adresses sur la carte, dont 3 000 qui ont été déjà mises par la communauté des 130 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'ores et déjà à sa disposition 33 000 lieux pour consommer autrement. Et cette force de la communauté, que ce soit sur les défis, sur l'action, ou que ce soit sur les lieux concrets pour consommer autrement, c'est grâce au digital. Et c'est le pari qu'on fait au WWF, c'est justement d'utiliser la puissance du digital pour en faire une arme de transition massive.
Et en plus, c'est assez ludique, mais on y reviendra avec un système de points aussi. Vous pouvez déjà, dès maintenant, vous avez sur le site de CO2 Mon Amour, vous avez le lien.
Vous pouvez aller sur votre App Store ou Google Store et Google Play, et vous pouvez télécharger l'application. Et comme j'ai, en plus, si on peut jouer ensemble, j'ai le suivi des téléchargements en live. Et donc, je pourrais vous dire, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, si vos auditeurs jouent le jeu, et à la fin de l'émission, combien on aura téléchargé.
Enfin, vous n'en aurez pas 550 000 de plus, mais quand même, pourquoi être déceptif? Soyons fous, oui, vous avez absolument raison. Et puis c'est pas le temps de la boutique. Alors donc, avant de s'intéresser complètement donc au climat, donc avec Valérie Masson-Delmotte, notre climatologue. Et puis Vanessa Loubin qui va nous parler des actions non étatiques. Elles sont drôlement importantes. En ligne, donc, un cinéaste que vous connaissez, Jean-Michel Bertrand, des Hautes-Alpes, à qui on va donner un petit coup de main. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Jean-Michel.
Eh ben bonjour Denis, je vois que vous êtes en forme. On espère que les arbres ne seront pas tous rôtis.
Il y en aura encore quelques-uns, à mon avis, en état de marche pour nous écouter. Et qui ont peut-être vu d'ailleurs aussi La Vallée des Loups, donc ce film superbe, 220 000 spectateurs, 20 000 DVD. C'était votre quête du loup dans votre très beau département des Hautes-Alpes. C'était dans le Dévoluy, vous comme cinéaste. Et puis là, vous avez des difficultés en fait pour le deuxième film qui est La Marche des Loups, qui va nous permettre de découvrir ce qu'on appelle la dispersion donc de ces animaux sur le territoire. Quel est le problème, Jean-Michel Bertrand ?
Ben, un problème assez surprenant, c'est-à-dire un blocage total du personnel politique local, mais même extra-local, on va dire, parce que ce sont les vallées du Champsaur-Val-Godemar qui nous avaient aidés, c'était les Hautes-Alpes qui nous avaient aidés pour la Vallée des Loups également, et la région sud, la région PACA, à hauteur quand même en tout de 80 000 euros. Et puis au vu du succès du film, et puis ben voilà, de quand même ça a un peu rayonné sur la région, en tout cas j'espère.
Ça a rayonné en France, hein.
Ben en tout cas, du coup de projecteur qu'on a pu avoir, eh bien, il y avait déjà eu des blocages bizarres, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune remontée à l'époque des revues de presse locales, notamment du département. Quand on faisait plein de médias, etc., ben, il n'y avait rien, il y avait une espèce de silence. On nous a même demandé d'enlever les Hautes-Alpes du générique à l'époque de La Marche des Loups, ce qui était encore plus bizarre. On se dit là, ça a peut-être à voir avec le loup. Et puis là, pour le nouveau film, ben, c'est un blocage total, donc zéro, aucune aide. Voilà, donc là, ça a été... Alors attendez, nous, on n'attend pas le tapis rouge et on n'attend pas de l'argent comme ça. Mais c'est vrai qu'on sent, évidemment, il faut être réaliste, que tout ça vient effectivement de la problématique du loup. Alors, ce personnel politique nous ont dit « Ah oui, mais nous, vous comprenez, le loup, on est pris en otage par les éleveurs. » Mais moi, j'y crois même pas. Je sais très bien que les éleveurs n'ont pas eu besoin de les menacer. C'est pas le problème. De toute façon, moi, les éleveurs, je m'en prends pas à eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes sortes d'éleveurs. Toutes sortes de bergers. Il y a des gens que je connais qui sont des amis. Donc voilà, le problème n'est surtout pas d'être dans les postures d'attaquer ces gens-là, parce que voilà, on sait qu'il y a quelques excités très violents qui mettent beaucoup de pression, et du coup, les politiques se réfugient derrière ça. Et moi, je vis ça un peu comme une censure, quoi, parce qu'attention, moi je fais un film, je raconte une histoire, et il me semble qu'en France, on a peut-être encore le droit de faire des films, sauf que quand ça parle du loup, la pression est énorme, beaucoup de violence. Quand j'ai soulevé le truc, j'ai eu des flots d'insultes, des menaces physiques, enfin un truc incroyable. Mais de la part, je le répète, d'une poignée de gens. Et puis moi, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans.
Donc il y a un courage, Jean-Michel Bertrand, il y a un côté courage fuyons, ça on l'entend bien. Et donc pour essayer de contrecarrer cela, vous vous lancez donc avec une demande de participation des uns et des autres. Donc on peut participer à ce film. C'est sur Kiss Kiss Bang Bang ?
Oui, Kiss Kiss Bang Bang, et puis alors ça a été fabuleux, parce que là on arrive au bout finalement, et c'est sympa qu'on puisse en parler maintenant, parce qu'il va rester 4 jours. En fait, ça va s'arrêter le 5 décembre à 11h37 du matin, donc vous pouvez nous aider jusqu'à cette date et cette heure-là.
Oui.
5 décembre, 11h37 du matin, et là on a déjà dépassé, on avait demandé petit au départ, parce qu'on savait pas trop où on allait. Là, il nous manque évidemment 80 000 euros, mais on a dépassé les 40 000, ce qui est vraiment inespéré.
Eh ben, allez-y, alors.
Et il faut encore en mettre un coup, quoi. Et puis c'est une très belle réponse, quelque part, à ce manque de courage politique.
Merci beaucoup, Jean-Michel Bertrand. Donc, après la quête des loups, si vous voulez donc aider cette marche des loups, eh bien, rendez-vous sur le site de CO2 Mon Amour. Vous aurez les coordonnées, donc, de Kiss Kiss Bang Bang pour aider Jean-Michel. À très bientôt. Au revoir, Jean-Michel.
Merci. À très bientôt, Denis. Merci et bonne émission.
Mais alors, si vous voulez faire un rime avec les trois petits cochons ou bien du grand méchant loup, il n'y a pas de problème. Là, vous trouverez des fonds sans difficulté. Climat mode d'emploi dans quelques instants.
Derrière, elle panique. Fous-moi la paix, ma sale caboche. Tu ne me feras pas sombrer. Je t'aurai à grands coups de pied.
brioche si tu ne laisses pas tomber.
Le panique, c'était Olivia Ruiz sur France Inter.
En ce qui concerne la montée du niveau des océans, c'est oui. une triste réalité en effet. Mais je propose que l'on remonte le niveau du sable. Ainsi, il n'y aura pas de problème. On fera des plongeoires, des pontons, on va démerder.
France Inter. CO2, mon amour. Denis Chessou.
Eh bien, c'est une excellente idée. Il faut des affaires comme ça. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué, mais quand même. Alors, chère Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, docteur en physique, chercheuse au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA, coprésidente du groupe de travail sur les sciences du climat et du GIEC. Eh bien, ce dernier rapport du GIEC est sorti le 8 octobre dernier. Donc, 6000 publications de scientifiques ont été donc analysées. On voit bien que la fameuse trajectoire, si vous voulez, on n'arrête pas de nous dire 1,5 degré, on sait qu'on n'y arrivera pas. Nous, dans cette émission, on n'en parlait jamais effectivement du 1,5 degré. Peut-être que quand même les 2 degrés de climat, ça peut être tenable. Où en est-on exactement? Parce qu'en fait, il y a une chose qui est très sûre, c'est que vous avez pointé la montée des dérèglements et les retards pris pour les contrer.
Ben finalement, la première chose, c'est de rappeler la réalité du changement climatique et de ses effets. Ça affecte tout le monde, les activités des gens partout et puis les milieux naturels. Le deuxième constat, c'est que on y va très vite vers 1,5 degré. On est aujourd'hui à 1 degré de réchauffement par rapport à la fin du 19e siècle. Ça se réchauffe d'à peu près 0,2 degré tous les 10 ans. Donc regarder un monde 1,5 degré plus chaud, c'est regarder une période entre 2030 et 2050 au rythme actuel. Et puis, si on baisse pas les rejets de gaz à effet de serre, ça peut même arriver un peu plus tôt. Donc, ça a un sens de regarder ce qui va nous arriver demain. Et puis, on a comparé ce que c'est un monde 1,5 degré et 2 degrés plus chaud. Et on voit qu'il y a vraiment des bénéfices très nets à stabiliser le réchauffement au niveau le plus bas possible. C'est quelque chose qui a même surpris les chercheurs en sciences du climat, de voir à quel point on sortait un signal clair sur les différences 1,5 degré et 2 degrés. Des différences très nettes pour les vagues de chaleur, pour le niveau moyen de température, pour la durée, la fréquence des vagues de chaleur dans les océans comme sur les continents, pour l'intensification des pluies torrentielles, des bénéfices très nets par rapport au risque de perte de rendement sur des céréales clés, ralentir un peu la montée du niveau des mers, gagner 10 cm sur la montée du niveau des mers d'ici à 2100, c'est gagner du temps pour l'adaptation, c'est éviter d'exposer 10 millions de personnes en plus. C'est des enjeux croisés énormes avec le développement, parce qu'en fait, entre 1,5 degré et 2 degrés, par rapport aux effets croisés du climat, c'est éviter d'exposer plusieurs centaines de millions de personnes aux risques climatiques croisés et des personnes qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté. Donc on montre clairement en fait cette intersection des enjeux développement climat et les bénéfices à stabiliser le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Ce qu'on montre aussi, c'est que en fait c'est pas infaisable. C'est pas infaisable d'un point de vue du fonctionnement du climat. Les émissions passées de gaz à effet de serre ne nous condamnent pas à aller vers 1,5 degré ou plus. Tout dépend de ce qu'on va faire maintenant. Donc on a une petite marge de manœuvre, on a une petite fenêtre d'opportunité.
Et pourtant, si on devait fermer tous les robinets, on va dire, de gaz à effet de serre, il y a quand même un effet d'inertie.
En fait, dans notre rapport, on a les deux derniers chapitres, ils sont vraiment formidables. Celui qui porte sur les grandes transitions. En fait, c'est pas infaisable, mais ça demanderait des transitions sans précédent dans tous les grands systèmes. Système énergétique, système agroalimentaire forestier, système urbain, système industriel, des grandes infrastructures, réorientation des financements. Et en fait, pour chacun de ces systèmes,
de vie, enfin de...
Ouais. Et pour chacun de ces systèmes, ce qu'on montre en fait, c'est que d'abord, il faut penser intégré. Il faut pas séparer, baisser les rejets de gaz à effet de serre. Il faut penser des systèmes qui vont fonctionner, qui vont assurer les services pour nous dans un monde qui se réchauffe. Et en faisant cette analyse, en fait, sur toutes les options d'action, on a passé en revue 6 dimensions de faisabilité. On voit qu'il y a énormément d'options qui sont là, en fait. On regarde la faisabilité géophysique, elle est là. Environnementale, elle est là quand on fait pas des choix idiots. Technologique, elle est là. Économique, on peut l'avoir. Socioculturel, ça se travaille. Et ensuite, institutionnel, c'est souvent là qu'il y a des barrières. Et donc, c'est frappant de voir qu'on a la possibilité, en fait, de construire un développement, améliorer le bien-être de tous, de construire un développement économique, tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles, tout en arrêtant la destruction de la biodiversité, et en améliorant le bien-être des gens. Et je pense que le rapport, il est le plus fort en montrant ça. C'est-à-dire pas uniquement la partie climat, mais le fait qu'on peut construire des trajectoires de développement, c'est-à-dire améliorer le bien-être de tous comme première priorité, tout en ayant un développement qui soit résilient, c'est-à-dire qui fonctionne dans un climat qui va changer, et en allant vers un monde sobre en carbone. Parce que finalement, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de baisser les rejets de dioxyde de carbone, en gros, d'un facteur 2 par rapport à aujourd'hui, d'ici à 2030, si on veut une chance de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré, et d'être net zéro CO2 à horizon 2050, c'est-à-dire pas plus de CO2 qu'on mette dans l'atmosphère que nous, humains, par nos actions, on soit capable d'en enlever. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête, finalement. La question climat, c'est net zéro CO2 à l'horizon.
Parce que ce qui stocke aujourd'hui, c'est les océans, c'est la biomasse, et on rejette plus, on va dire, de l'émission de gaz à effet de serre que ce qu'eux peuvent absorber.
Oui, en fait, nous, on rejette, en particulier le dioxyde de carbone, on en rejette donc par l'utilisation des énergies fossiles, en charbon, pétrole et gaz, par l'utilisation de ciment et par la déforestation. Il y a eu une petite stagnation dans le monde entre 2014 et 2016, et là, c'est reparti à la hausse. Et puis, on agit aussi par d'autres composés, par exemple le méthane, qui lui touche plus à des activités agricoles, d'élevage, de fermentation de déchets, donc plus à l'usage des terres. Et en ce moment, dans la communauté scientifique, on revoit à la hausse l'effet du méthane sur le climat. Donc c'est important de s'en préoccuper. Et quand on se préoccupe de ces composés qui ont des durées de vie plus courtes, d'abord on peut avoir des bénéfices plus rapides à l'action. Et en plus, le méthane et par exemple les suites carbone, ce sont des composés qui agissent sur le climat et qui sont toxiques pour nous en fait. C'est des polluants qui dégradent la qualité de l'air. Et donc on peut avoir des bénéfices immédiats en termes de santé publique. Et en fait, c'est ça qu'il faut penser. C'est pas avoir une boîte où on met le climat, et puis une boîte où on met la santé, et puis une boîte où on met la biodiversité et les autres. Il faut arriver à penser de manière intégrée, parce que ce qu'on voit, c'est que si on agit par rapport au climat, si on améliore la qualité de l'air, on a des bénéfices immédiats en termes de santé publique, en termes d'exposition des populations, des écosystèmes, des récoltes à un air de mauvaise qualité. Et donc notre rapport, en fait, il montre plein de pistes pour agir, et il montre l'importance de construire des transitions qui soient justes. C'est un point important, cette notion-là.
Alors, c'est aussi pour ça que vous et Pascal Canfin, donc, vous êtes maintenant membre du Haut Conseil donc, pour le climat, donc, qui vient d'être instauré. Certains vont dire, bon, c'est peut-être encore un machin de plus, on a déjà beaucoup parlé du climat. Les constats, on les a maintenant. Ce qui nous manque quand même, c'est franchement l'action politique, même si des choses avancent, mais quand même, on est quand même largement en dessous de l'affaire. Et vous, donc, Pascal Canfin, qui n'est pas un perdreau de l'année, à qui on a proposé aussi éventuellement de succéder à Nicolas Hulot, etc., vous êtes pas fou, quoi. Vous vous dites, quelles vont être mes marges de manœuvre? Et tant que l'on est quand même dans ce monde hyper productiviste qui aujourd'hui ne sait pas, en tout cas c'est très très mal, produire sans détruire le climat et le reste, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Donc...
Bien sûr, un mot sur le Haut Conseil. Si on a accepté d'y participer, Valérie et moi, avec donc les 11 autres membres, puisque nous sommes 13, c'est parce qu'on a la conviction que c'est pas un comité Théodule ou un machin pour faire beau sur l'étagère, sinon on n'y serait pas. Quelle est sa plus-value? Quelle est sa fonction qui n'était pas remplie par aucune autre institution en France, puisque au Royaume-Uni ça existe? C'est de pouvoir travailler en amont avec les ministres et les ministères, et évidemment le Matignon, pour évaluer l'impact climat des différents choix politiques. Et par exemple, dans les échanges que nous avons eus avec les deux ministres de Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, on a eu l'engagement de leur part de travailler sur le prochain budget de la France, celui de 2020, puisque celui qui sera voté dans quelques semaines, évidemment, c'est trop tard, pour calculer l'alignement ou le non-alignement avec l'accord de Paris, du budget de la France. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation complètement aveugle. Ça veut dire que tous les ans, depuis l'accord de Paris, l'État continue de voter un budget, les députés votent un budget, sans avoir la moindre information pour savoir si ce budget, plusieurs centaines de milliards d'euros, est compatible avec la même signature de l'État français en bas de l'accord de Paris. Mais il faut sortir de cette zone aveugle pour, et le mot-clé, c'est la cohérence. Il faut mettre en cohérence toutes nos politiques, et notamment le budget, bien évidemment, avec l'accord de Paris. C'est ce à quoi on va avec Valérie Sempron.
Alors, ça va être un rôle consultatif important, certes, mais par exemple, un grand contournement ouest actuellement, donc qui est parti, donc il y a des gens qui vous disent « Oui, mais il faut désenclaver Strasbourg. Oui, d'accord, mais en même temps, c'est complètement climaticide. Est-ce que là-dessus, je ne sais pas, le Center Park de Roibon, qui est encore une hérésie totale, est-ce que ça fait
Montagne
partie
d'or
de...
en Guyane, Montagne d'or en Guyane. Vous pouvez m'en citer voilà. Des dizaines comme ça. On est effectivement dans un monde en transition. C'est-à-dire que on commence à abandonner en France, restons sur le cas français, hein, on commence à abandonner des infrastructures au nom du climat et en analysant l'incohérence avec l'accord de Paris. Le premier, c'est Notre-Dame-des-Landes, l'année dernière, l'autoroute entre Saint-Étienne et Lyon, récemment, des lignes TGV dont on sait très bien qu'elles captent une grande partie des budgets et ça manque en investissement dans les lignes secondaires, etc. Mais en même temps, on continue à faire des choses qui sont héritées du passé. Montagne d'Or, projet minier dont la concession date de 1946, le grand contournement à Strasbourg, je crois que c'est dans les années 50 ou 60. Bon. Oui. Donc on voit bien qu'on est en train pas assez vite, et c'est tout le sujet de la COP24, du GIEC, etc., des alertes scientifiques. On commence à entrevoir quelque chose d'autre, mais vraiment pas assez vite. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre la pression de l'intérieur et de l'extérieur sur les politiques et les entreprises, et c'est pour ça qu'on a besoin de rassembler la société pour envoyer un signal à ses décideurs, et puis tout simplement pour agir concrètement au quotidien, pour faire en sorte que les millions de décisions que nous prenons chaque jour tous ensemble aient une influence immédiate. Par exemple, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, décide au fond de repousser un peu plus tard les futures fermetures de centrales nucléaires.
Mais moi, pour EDF, c'était beau, ils ont réussi leur coup.
Exactement. Mais moi, je peux, là, un auditeur qui nous écoute peut sortir du nucléaire. Il peut le faire. Il peut prendre un contrat d'énergie, d'électricité 100% vert. Il peut prendre un contrat de gaz 100% biométhane. C'est possible aujourd'hui. Et donc, il faut utiliser cette puissance citoyenne pour faire bouger les modèles économiques et faire bouger la société. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on est déjà plus de 5000 auditeurs en quelques minutes à avoir téléchargé l'appli WAG. Super. Et donc j'invite tous les autres à le faire également.
Juste un mot avant de passer une autre chanson et puis ensuite de voir ce qui se passe en dehors des États, Valérie Masson-Delmotte. On va dire que ce Haut Conseil pour le climat, je résume, ça peut être une cour des comptes des ambitions climatiques de la France.
Alors d'abord, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'il soit indépendant. Il est présidé par une des meilleures scientifiques en sciences du climat au monde, Corinne Le Quéré, franco-canadienne. C'est déjà un signe d'indépendance. Par ailleurs, donc ce qui est important, c'est l'efficacité des politiques publiques pour réduire la cause du réchauffement climatique à hauteur du poids de la France, donc les rejets de gaz à effet de serre. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est analyser les résultats, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi, ce qui fonctionne pour le généraliser, identifier les blocages et faire des recommandations qui soient entendues. En tout cas, c'est moi ce que j'en attends et j'y apporterai mon domaine de compétences qui porte sur les sciences du climat.
On y va, on continue donc en musique et donc on revient sur ce climat, on revient sur ce merveilleux CO2 presque, mon amour.
Tell you my story. Gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word. Let me give you my promise. I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand. Let me enter your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true.
true.
Réalisateur Marco Mutel me dit, tu désannonces Popol. C'est Paul McCartney, c'est effrayant. Il y a toute une rééducation à faire, c'est dingue. Main dans la main, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça le WAG, hein, donc main dans la main, c'est, on va dire,
oui, c'est cette ça, application. C'est tous ensemble pour aller chercher les solutions. Valérie l'évoquait un instant, l'alerte, on la connaît, maintenant il faut passer aux solutions. Et les solutions, elles sont politiques, elles sont dans les entreprises, elles sont sur les politiques publiques, on va parler des villes dans un instant, elles sont aussi chacun entre nos mains. Et le pouvoir, on peut le reprendre, on peut reprendre la main, et c'est possible en agissant ensemble à travers, par exemple, cette application WAG que je vous invite donc,
oui,
c'est ma nouvelle page de publicité, à télécharger pour le bonheur de tous et de la planète.
La ville, et bien les villes justement, elles arrivent.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou, sur France Inter.
Depuis la maternelle, j'entends parler d'effet de serre. La maîtresse nous disait, pensez à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle.
C'était le groupe Y'a pas d'âme, mais oui, Y'a pas d'âme, mais si, nous en avons une. En tout cas, on essaye de ne pas la faire chauffer de trop. Voilà, pardonnez-moi pour cette voix merveilleuse. Aujourd'hui, Pavarotti, bon, paix à son âme, enfin, je lui ferai pas concurrence encore aujourd'hui. Vanessa Laubin, déléguée générale de Climate Change. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est une association qui a été créée, donc, il y a 3 ans. Nous allons saluer le sénateur Ronan Dantec, de Loire-Atlantique, d'Europe Écologie des Verts, qui est donc à la tête, enfin, qui a créé, donc, cette affaire-là. Et en fait, vous regroupez les acteurs non étatiques pour mieux les faire travailler ensemble. Alors, c'est 8000 villes, c'est 200 régions bas carbone, ça représente quand même, en termes de population mondiale, combien de personnes ?
Alors, je vais préciser un petit peu. Hein. Nous, allez-y. Effectivement, notre mission, c'est de coordonner, de faire monter en puissance ces organisations dites non étatiques dans le monde entier. Donc, on a une vocation internationale. Pourquoi ? Parce que, d'une part, elles ont c'est des acteurs de terrain qui ont un rôle essentiel à jouer sur le terrain, bien sûr, mais aussi parce qu'ils peuvent renforcer l'ambition des États et ils contribuent aussi à permettre aux États de respecter leurs engagements. Donc, c'est un réseau de réseaux qui rassemble à la base des collectivités locales et des régions, mais au fur et à mesure, enfin, on s'est aussi étendu au secteur privé, à la diversité des acteurs mobilisés contre le changement climatique, les ONG, les jeunes, les chercheurs, les agriculteurs, etc., etc. Donc, nos objectifs, c'est effectivement de faire mieux travailler ensemble ces acteurs, de diffuser la parole commune, quels sont leurs besoins pour accélérer leur action à eux aussi, et puis d'évaluer aussi le potentiel de leur action sur le terrain.
Alors, nous, on a besoin maintenant de choses tout à fait concrètes. Si je pars à Delhi, qu'est-ce que l'on peut dire sur Delhi?
Qu'est-ce qu'on peut dire sur Delhi? On peut dire d'une part que Delhi a encore d'énormes besoins en termes de d'infrastructures, que ce soit des infrastructures routières ou des infrastructures liées à l'électricité, etc. Mais qu'il y a des initiatives très intéressantes qui sont notamment portées par les gouvernements locaux, le gouvernement de Delhi, qui a par exemple déployé une flotte de 100 000 pousse-pousse électriques. Alors ça paraît peut-être anecdotique, mais en fait non, c'est pas si anecdotique que ça, puisque ça permet de faire ce dernier kilomètre dans la ville avec des motorisations qui n'émettent pas de CO2. Donc c'est très positif.
Nous allons à Londres, Anglais qui ont un petit peu connu l'Inde d'ailleurs une époque, mais enfin donc nous allons à Londres, qu'est-ce qui se passe en transport en commun?
Alors Londres, Londres a aussi travaillé fortement sur ce dispositif de transport en commun. avec une amélioration des services, mais aussi la mise en place d'un péage urbain. Hein, donc ça s'est passé aussi à Londres. Ça a eu un effet assez immédiat, puisque en l'espace de 20 ans, la part du transport en commun est passée de 25% à 37%. L'objectif de Londres, c'est de passer à des déplacements doux pour 80% des déplacements d'ici à 2041. Et c'est en fait dans le rapport de l'Observatoire Climate Change que nous avons publié la semaine dernière, nous mettons en avant l'ensemble de ces initiatives mondiales qui sont portées par des acteurs non étatiques, mais qui s'inscrivent aussi dans des cadres favorables qui sont déployés par les États. Et c'est ça qui est important.
Alors Vanessa Lobin, donc on parle aussi des entreprises parce que donc elles sont là. Qu'est-ce que l'on peut dire ? On peut prendre un exemple, une entreprise danoise.
Oui, alors des entreprises qui font beaucoup pour la lutte contre le changement climatique, il y en a énormément, et ça, il faut saluer cet engagement-là. Soit des entreprises qui se sont créées avec des solutions techniques destinées à lutter contre le changement climatique. Je crois que cette semaine, vous aviez sur un des plateaux le directeur de Cool Roof France qui travaille simplement avec des solutions techniques très simples pour refroidir les bâtiments publics et commerciaux avec de la peinture blanche sur les toits. Donc c'est très très simple. Mais il y a aussi des acteurs qui étaient très fortement émissifs, comme par exemple le Danois Ørsted, qui était un des géants de l'industrie pétrolière et gazière en mer du Nord, et qui en l'espace de 10 ans a fait une transition extrêmement rapide et possède aujourd'hui près du quart des éoliennes offshore de la planète. Donc il faut noter ces bons aspects. Il faut aussi être très lucide et montrer quand ça fonctionne pas.
Le transport aérien, c'est pas génial, non. Ce que vous dites. Hein,
alors effectivement, dans notre rapport, on pointe les limites des engagements du transport aérien international, puisque l'essentiel des engagements qui ont été pris repose sur la compensation carbone et sur l'utilisation de biocarburants. Et on pense, nous, que c'est pas forcément ça va pas forcément permettre de réduire, enfin, en tout cas de permettre la stabilisation des émissions du secteur à partir de 2020. En tout cas, ça nous semble un peu faible comme engagement. Et il va falloir suivre cet engagement, l'évaluer pour voir s'il est réellement mis en œuvre.
C'est gentil quand vous dites un peu faible, Valérie Masson-Delmotte, peut-être sur ce thème, parce que vous le connaissez aussi, donc...
En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a aussi réfléchi à la question des besoins de connaissances pour l'action dans les villes. On a mené une réflexion l'année dernière avec 700 participants, donc avec les organisations de recherche, les organisations de grandes villes, les grands programmes internationaux de recherche. On a proposé un agenda de recherche et d'action autour des villes et des sciences du changement climatique, parce qu'en fait, il y a besoin de produire des connaissances. Il y a des connaissances qui existent dans les villes, et il y a besoin en fait d'un échange avec le monde académique pour justement permettre plus rapidement de déployer des solutions qui soient innovantes, avec des outils pour justement suivre l'évolution des performances. Et il y a un sujet qui est vraiment important, c'est pas uniquement la baisse des rejets de gaz à effet de serre, mais c'est aussi la question de l'adaptation et de l'adaptation des villes. Il y a un vrai sujet aujourd'hui là-dessus. On voit qu'il y a une difficulté à obtenir, par exemple, des financements pour l'adaptation. Et c'est quelque chose qui est nécessaire de renforcer la résilience des lieux de vie. Par exemple, parmi les endroits les plus exposés au monde aux conséquences du réchauffement climatique, on a les mégacités situées au bord de la mer, du fait de la montée du niveau des mers et des risques associés. Il y a un vrai enjeu à aller plus vite autour de l'adaptation pour éviter d'être piégé sur de la gestion de crise par la suite.
Pascal Canfin.
Sur les villes, je voudrais donner l'exemple de la métropole de Rouen, parce qu'on a fait avec la métropole de Rouen, le WWF et l'ADEME, une COP21 locale. On l'a initié il y a un an et on en a fait la fin du premier acte il y a quelques jours à peine. Et on a agrégé l'ensemble des engagements pris par les entreprises, les commerçants, les communes du territoire. Il y a un an, la métropole a fixé son propre cap, par exemple 100% d'énergie renouvelable en 2050. Mais on s'est dit, ça suffit pas, il faut que l'ensemble des communes suivent. Aujourd'hui, on a 71 communes sur 71 de l'agglomération engagées dans la COP21 locale et des engagements concrets sur le climat. On a 400 entreprises, 500 commerçants. Ces 500 commerçants et ces 400 entreprises sont dans 17 coalitions sectorielles autour du port autonome, autour des zones commerciales, de l'université, etc. pour agir concrètement de façon, par exemple, à développer les énergies renouvelables sur les toits, l'agriculture urbaine, les circuits courts, faire des plans de déplacement d'entreprises, etc. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, une ville, elle prend ses engagements pour elle-même, je dirais, ce qui la concerne directement, ce qu'elle a en main. Mais ça fait à peu près, quand on prend l'exemple de Paris, qui a probablement un des meilleurs plans climat au monde, 30% de ce qu'il faut faire pour respecter l'objectif fixé par l'accord de Paris, à savoir ne pas dépasser les fameux 2 degrés de réchauffement climatique. 70%, c'est dans les mains des entreprises, des universités, des commerçants, des livreurs, etc. Et avec notre système de COP21 local, eh bien, on agrège tout ça. Et franchement, ça crée une énergie sur le territoire qui fait que des gens qui ne se parlaient pas, des entreprises qui ne se parlaient pas, se sont aperçus que l'une était productrice de gaz vert et l'autre était consommatrice. Ils se sont rencontrés et maintenant ils sont débranchés en quelque sorte le gaz russe, le gaz bleu, pour venir au gaz vert. Voilà un exemple concret qui n'aurait jamais existé si notre dispositif de COP21 local avec la métropole
et
n'avait pas été mis en place.
C'est d'autant plus important parce que aujourd'hui, donc on a bien vu que dans le plan que nous a présenté Emmanuel Macron, il y avait quand même très peu de choses sur les territoires, très peu de choses sur la rénovation. Et donc on sait aussi que c'est quand même sur les territoires que choses vont se passer. Petite insiste quand même sur Rouen. J'ai parlé du grand contournement ouest. Il y a aussi quand même un contournement aussi de Rouen. Voilà, qui est aussi une autoroute.
Qui fait donc, nombreux débats locaux, absolument.
Oui, mais qui va se faire quand même. C'est ce qu'on a vu partir. Là.
Donc, en tout cas, il est budgété et dans les plans, il a été voté par le gouvernement. Après, on verra.
Alors, moi, je reviens vers vous, Valérie Masson-Delmotte. Ce qui m'intéresse aussi, c'est quand même votre sentiment de citoyenne. Vous êtes chercheuse, bien sûr, mais votre sentiment de citoyenne par rapport à tout ça. En même temps, on oscille donc les uns les autres. On a d'un côté des gens qui sont versus donc économie, PIB, profit, rentabilité. Parfait. Et de l'autre côté, enfin parfait entre guillemets, de l'autre côté, on a donc des gens qui cherchent à protéger la nature, à protéger donc les écosystèmes qui nous sont nécessaires. Au milieu, on nous demande de faire des gestes et on fait reposer énormément aussi, voire une espèce de couche de culpabilité sur le citoyen. Pas que, mais quand même, en laissant parfois un petit peu de côté le monde de l'entreprise, où on va être beaucoup plus laxiste. Donc voilà, dans ce maelstrom, un petit peu comment s'y retrouver. Et quel est, vous, votre sentiment de citoyenne?
Mon sentiment, c'est qu'en fait, dans le débat public, on n'a pas un débat sur les solutions. Quand on essaie d'organiser un débat, on a un débat sur la réalité du problème, ça c'est obsolète finalement. Et on peine à avoir un débat sain sur la base de faits que l'on puisse tous partager. Par exemple, la contribution au rejet de gaz à effet de serre en fonction des catégories de revenus. Donc en fonction des modes de vie. Qu'est-ce que c'est une transition juste où chacun contribue à hauteur de ses possibilités? Comment agir sur les trois principaux facteurs de rejet de gaz à effet de serre à l'échelle des individus, pour que ce soit accompagné? Le premier, c'est le chauffage quand on est chauffé au fioul ou au gaz, donc le bâtiment, le logement. Le deuxième, c'est les transports. Comment faire quand on n'a pas le choix dans des endroits où on n'a pas facilement d'alternative aux véhicules individuels? Et puis le troisième volet, c'est l'alimentation. En fait, en France, ça pèse lourd. Et dans le monde, les systèmes alimentaires, quand on regarde depuis la ferme jusqu'à l'assiette et aux déchets, c'est 40% des rejets de gaz à effet de serre. Donc je pense que c'est important, moi, d'ouvrir la conversation sur ce qu'on peut faire et comment mettre ensemble les différents acteurs à différents niveaux pour faciliter la transition à l'échelle des citoyens. De sorte que leur avis est pris en compte et de sorte que dans la stratégie qui est proposée, on voit que chacun fait sa juste part.
Son boulot, son balance, je voudrais qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence, je veux te voir tout dépenser, dans ces souvenirs à fabriquer, la seule chose qui ait du sens. C'est de se barrer en vacances, compter les vagues se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, bord de plaisance. Semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, voir le soleil se lever. laisser le temps se défiler. Y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, juste un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regardez les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé.
Bah oui, c'était en vacances, c'était Séverin. Peut-être même qu'il a pris l'avion, on l'entend, il est en train d'atterrir là. Séverin, donc sur France Inter. Bon, on va pas vous abrutir avec la COP 24 parce qu'en fait ça va être extrêmement technique. Il s'agit en fait en Pologne de mettre en œuvre les actions de la COP 21. Il y a pas mal d'inertie. Trump, ça vous a pas échappé. Il n'y sera peut-être pas. Les Chinois représentent à peu près un quart de ces émissions de gaz à effet de serre. Le Brésil, ça va être un peu chaud aussi. Donc, vous entendrez bien sûr parler sur France Inter et un petit peu partout. Mais voilà, on y reviendra si on veut des choses vraiment révolutionnaires. Ce qui nous intéresse aussi maintenant, évidemment, c'est demain aussi avec vous, Valérie. J'aurai d'ailleurs Cyril Dion la semaine prochaine en direct de la manifestation, je tenais à vous le dire. Les jeunes, là, je veux dire que c'est eux qui ramassent le sac à dos, hein, qu'on leur laisse.
Oui, et puis en même temps, il y a une prise de conscience qui est énorme. Alors moi, je les appelle parfois la génération anthropocène. En fait, toute une génération qui arrive et qui veut que sa façon de vivre, ses opportunités d'emploi, soit finalement en phase avec ce constat qu'on atteint des niveaux de dégradation de la biodiversité, des atteintes sur le climat qui sont intenables. Donc ils veulent changer maintenant. Ils n'ont pas cette espèce de dissonance cognitive de ma génération ou d'autres générations où on sait mais on ne fait rien. Ils veulent vraiment aligner les choses et c'est frappant. Donnons-leur de la place, donnons-leur la parole. Faisons des émissions populaires où on voit en fait ces acteurs du changement qui sont fiers de faire autrement. C'est pas moins, c'est mieux. Et je trouve que ça manque. C'est où l'émission de cuisine populaire? Les gens passent leur temps à regarder des émissions de cuisine. C'est où l'émission de cuisine populaire où on cuisine sain et respectueux de l'environnement? C'est où des émissions populaires où au lieu d'acheter des trucs faits en Chine pour décorer un logement, on isole son logement, on fait mieux, on fait malin, on fait ensemble? Ça manque sur des trucs populaires de grande écoute. Donc moi je pense qu'il y a vraiment un défi à montrer cette transformation qui est là, de l'accélérer, de donner envie de s'investir, parce que souvent le frein c'est juste démarrer en fait. Mais il y a un potentiel qui est énorme et chacun a sa place à y jouer, mais faisons plus de place à la jeunesse, je pense que c'est important.
Pascal Canfin.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Valérie. Je pense qu'il y a on évoquait la question de la transition juste. Elle est au cœur, aujourd'hui même, on a les manifestations des Gilets jaunes. Et fondamentalement, le seul logiciel qui nous permet d'avancer tous ensemble, mais d'avancer dans le bon sens, c'est cette transition juste. Et on a, parmi les Gilets jaunes, en tout cas c'est mon analyse, on a en gros trois grandes catégories. On a ceux qui font une critique politique, du type Macron dégage, Macron démission. Ça, en tant que responsable d'ONG, moi j'ai rien à en dire. Il y a ceux qui ont une critique culturel sur le mode ma voiture tout seul et le reste j'en ai rien à faire, ça existe. Quand je vois des porte-paroles de gilets jaunes à côté d'un 4x4, je leur dis il y a un moyen assez simple de payer moins cher et moins d'essence, c'est de pas avoir de 4x4. Et puis il y a un troisième sujet, c'est la critique sociale, qui est de dire moi j'aimerais bien y aller, mais je peux pas. Et donc les gilets jaunes agrègent ceux qui veulent pas y aller, mais même s'ils peuvent. Et puis ceux qui voudraient bien y aller, mais qui peuvent pas. Et donc la responsabilité du gouvernement aujourd'hui, c'est justement d'adresser ces troisièmes enjeux. Et clairement, le minimum du minimum, c'est de faire en sorte que la fiscalité écologique serve la transition écologique. Sinon, c'est incompréhensible pour les Français de se dire « mais moi, je veux bien payer des taxes vertes ». Je rappelle que là, en France, on est l'avant-dernier pays en Europe pour la fiscalité écologique. C'est 5% de la totalité des taxes qu'on paye, donc c'est tout petit, mais il faut encore que ça, ça serve à financer la transition. Or, aujourd'hui, on le sait, ça n'est pas le cas. Donc, le minimum du minimum est qu'au moins 50%, si on peut aller plus, tant mieux, de cette fiscalité écologique finance la transition, l'isolation des bâtiments, ces fameuses passoires thermiques où on paye parfois plus de factures de chauffage que de loyer. 7 millions de Français qui sont piégés là-dedans, ben ça fait des années. C'était vrai sous Sarkozy, vrai sous Hollande, vrai sous Macron, qu'on dit on va en isoler 500 000. On ne les fait pas. Maintenant, la nouvelle prévision, comme on ne l'a pas fait, c'est d'en isoler 700 000, sauf qu'on ne se donne absolument pas les moyens d'y arriver. Et donc cet écart entre les actes et les discours, ça frustre les gens. Ça frustre dans une colère, je dirais, qui s'exprime aujourd'hui à travers les gilets jaunes, mais ça frustre aussi tous ceux qui sont prêts à avancer, les jeunes dont Valérie parlait, tous ceux qui sont déjà dans la société d'après, qui savent que les solutions sont là, qui les mettent déjà en œuvre tous les jours dans leur quotidien, à travers leur énergie,
et
leur déplacement, leur alimentation.
Et qui sont face à des secteurs entiers, pardonnez-moi, de l'industrie, qui sont dos au mur.
Qui sont passés à autre chose. Vous savez, je lisais 41% des Français qui sont allés dans un rayon cosmétique cette année, déjà renoncé à un achat parce qu'ils disent non, mais je vais pas le faire, je vais plutôt le faire moi-même. Plutôt faire mon shampoing moi-même, faire mon dentifrice, ce truc-là, je sais pas, je vais prendre bio, etc. Les bio explosent, donc une partie significative de la société est déjà passée à autre chose. Elle est déjà dans le monde de la neutralité carbone. Et elle est extraordinairement frustrée aussi du fait que les règles du jeu ne changent pas assez vite.
Moi, je parlais juste effectivement de secteurs entiers de l'industrie qui sont dos au mur et qui sont malheureusement peu capables de se réformer aujourd'hui. Vanessa Lambin, s'il vous plaît.
Je voulais rebondir sur effectivement le fait qu'une grande partie de la société est prête pour changer. Il y a un dernier sondage qui disait que 76% des Français estimaient prioritaire ou importante la prise de décision contre le changement climatique. Ça, c'est quand même très fort. Et ça fait contrepoids aussi au mouvement actuel sous les gilets jaunes. Donc, il y a besoin de construire un récit. Et ça, c'est très important d'en reparler, notamment avec Cyril Lion.
Il nous faut
construire un récit avec un foisonnement
d'initiatives. Un récit du futur.
Un récit du futur avec, en montrant... en montrant ce foisonnement d'initiatives, en montrant qu'il n'y a pas de fatalité, mais qu'il y a un manque de mise à l'échelle en fait des solutions qui fonctionnent, des solutions techniques, solutions organisationnelles qui fonctionnent et qui sont simplement entre guillemets empêchées par des barrières socioculturelles ou institutionnelles. Et maintenant, il faut aller beaucoup plus vite.
Un petit mot de la fin, Valérie.
Il faut faire confiance à l'intelligence collective. Et puis, ce qu'a fait Climate Change, ça le montre. C'est frappant en fait. Chaque fois qu'il y a eu des assemblées participatives ici ou ailleurs, chaque fois qu'on a réfléchi ensemble à ce qui est bien pour le climat, en fait, on pense à l'avenir de la communauté et en fait, on voit ce qu'on peut faire qui est bien pour le climat, bien pour la diversité et bien pour les habitants localement. C'est ça qui est frappant.
Pascal, qu'enfin notre application WAG.
Non, mais c'est 10 000 auditeurs. C'est un petit stade de foot qui ont rejoint l'application et qui sont maintenant, vont agir ensemble au quotidien.
On n'est pas obligé d'aller au foot, forcément.
Pas forcément, c'est une image populaire, comme le dit Valérie.
On peut y aller en covoiturage.
Et on y allait en covoiturage. Allez, merci à Camille Blanès, à Henri Marc Mutel qui a réalisé l'émission, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Rediffusion entre 5h et 6h. La Tulu, mon petit loup, ce sera demain à 19h54. Je vais m'arrêter, je vais essayer d'acheter une voix neuve, tiens, après tout. Une voix bio, ça pourrait être pas mal. On y va.